franceinter.fr.
Bonjour Alain Jouan.
Bonjour.
Les 100 jours de Donald Trump à la Maison Blanche, donc anniversaire dans la presse ce matin.
Et premier bilan, et comme le disait il y a quelques instants Bernard Guetta, rien, en tout cas, un tableau de chasse mince pour l'heure, écrit Arnaud de Lagrange dans le Figaro. Entre humiliantes rebuffades sur des dossiers phares comme le décret anti-immigration ou l'Obamacare et un chemin erratique en matière de politique étrangère. De ces zigzags, poursuit l'éditorialiste, on peut être soit rassuré par les facultés d'adaptation et le réalisme de Trump, le Parisien en conclut d'ailleurs qu'il est un président presque normal, soit s'effrayer de la volatilité de ses convictions. Et les Américains, qu'en pensent-ils ? 600 jours après son installation, Donald Trump bat tous les records d'impopularité. Son noyau dur résiste pour l'instant. Mais Philippe Gély dans le Figaro raconte tout de même un épisode qui en dit long sur la fracture des deux Amériques qui reste toujours aussi à vif. À Pâques, réunion publique à Little Rock dans l'Arkansas, au sein même de la famille républicaine. Pendant 50 minutes, pro et anti-Trump respectent une relative civilité. Pouvez-vous m'expliquer la politique étrangère de Trump ? Demande poliment une dame. Un quinquagénaire riposte. Je suis enchanté, moi, de tout ce que fait Trump. Les élus américains présents ont pris soin de garder leur distance avec le président élu. Ça n'empêche qu'à la fin, c'est la cacophonie qui l'emporte dans la salle. Enfermez-le, scande une partie de la salle, reprenant le slogan contre Hillary Clinton. USA, USA, s'époumonent les supporters du président.
Un président qui divise toujours son pays, mais qui s'appuie sur une famille unie.
Et un portrait croisé dans vos magazines de la fille et du gendre de Donald Trump. Ivanka Trump, dans les Échos Week-end, fille d'influence, à la fois conseillère, héritière, actionnaire, femme d'affaires, first daughter et first lady, donc de substitution. Influence, c'est l'un de ses tweets, se déclarant le cœur brisé et outragé par les images en Syrie, qui aurait joué un rôle déterminant dans le déclenchement des frappes américaines en Syrie. Elle est blanche, riche et belle, des attributs qui passent souvent pour des vertus morales, explique une chroniqueuse du New Yorker. Elle est si posée qu'elle parvient à adoucir l'image de son père simplement en se tenant à côté de lui. On lui prête donc un rôle modérateur, possible allié pour ceux qui tentent d'infléchir la trajectoire ultra-conservatrice et isolationniste du président. Mais c'est peut-être justement parce qu'elle est policée qu'elle est plus dangereuse que lui, dit un observateur. Car Ivanka Trump reste avant tout la garante du business familial et sa place à la Maison Blanche lui permet surtout de continuer à faire fructifier ses propres affaires. En miroir, dans M, le magazine du Monde, portrait de son mari, celui qui règle son pas sur le pas de son beau-père, écrit Gilles Paris, héritier lui aussi d'une fortune familiale, impossible à situer politiquement, il est décrit comme un être silencieux, sous lequel se cache un tueur capable d'éliminer tous ceux qui le gênent autour du président. Résultat, Jared Kushner est désormais le conseiller officieux pour une douzaine de gouvernements étrangers, sans pour l'instant avoir vraiment fait la preuve de ses compétences. Faute d'avoir gravité pendant des années dans les arcanes du Parti républicain, Donald Trump ne dispose en dernier recours que d'un seul cercle, celui de sa famille, explique le journaliste. Un power couple à la Maison Blanche.
Retour en France et à la campagne de l'entre-deux-tours.
Avec un décompte qui s'accélère ce matin dans la presse entre ceux qui appellent à voter pour Emmanuel Macron et ceux qui appellent à voter pour Marine Le Pen. Avantage arithmétique au premier. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, dans le Figaro. La position d'homme d'État, c'est de dire clairement « voter Macron », affirme-t-elle. « Voter Macron », puis « viser la cohabitation ». Elle plaide au passage pour exclure Christine Boutin des Républicains pour son appel à voter Le Pen. C'est la ligne rouge du parti, dit-elle. Henri de Castres, ex-président d'AXA et soutien de François Fillon, idem. L'écrivain Jean d'Ormesson, qui s'adresse aux candidats dans une tribune également à retrouver dans le Figaro. « Nous voterons pour vous avec résolution, mais ce soutien n'est pas un chèque en blanc. J'appelle sans ambiguïté ni retenue à voter Macron », dit pour l'autre bord l'écologiste José Bové dans Libération. L'archevêque de Poitiers, Pascal Windsor, appelé parmi d'autres par la Croix à éclairer la réflexion des chrétiens sur l'enjeu du vote, ne lance pas un appel moral. Le FN c'est mal, le reste c'est bien, d'aucune utilité, estime-t-il. Mais il s'appuie, lui, sur ce qu'il perçoit de la réalité des gens qu'il rencontre, des entrepreneurs qui créent des emplois à l'international, pour affirmer que fermer les portes d'un pays serait illusoire et de conclure « je ne voterai pas Marine Le Pen ». Macron aussi, avec cœur ou à contre-cœur pour les personnalités de la société civile Interrogée par le Parisien Magazine, finalement seule, Frigide Barjot, ex-porte-parole de la Manif pour tous, se demande pourquoi il faudrait barrer la route au FN. Elle appelle à glisser un bulletin filiation 2017 dans l'urne, ce qui sera compté comme un vote blanc. Marie-France Garraud, ex-conseillère de Jacques Chirac, affirme, elle, au Figaro, que Marine Le Pen est la seule capable de défendre la souveraineté de la France. Vote FN, donc, pour cette ex-figure tutélaire du gaullisme.
Quelques prises de position par la presse elle-même et quelques questions.
Oui, certains titres qui s'engagent clairement. Le Figaro Magazine, sous la plume de son directeur Guillaume Roquette, il ne s'agit pas de se rallier à Macron, mais d'éviter le pire, dit-il. Marianne, au nom de l'urgence républicaine, nous dit Renaud Dely, bien sûr, il faudra voter Macron le 7 mai, ou encore Politis. Macron est tout ce que nous combattons dans ce journal, écrit Denis Siffert, et pourtant, nous n'aurons aucune hésitation parce qu'on ne joue pas avec le risque fasciste. Mais au-delà des directeurs, des éditorialistes qui affichent leur choix, quelle marge de manœuvre pour les journalistes, les chroniqueurs, les humoristes? Alexis Delcambre, dans Le Monde de cet après-midi, décrit une campagne sous tension. Audrey Pulvar, suspendue de CNews pour avoir signé un texte contre Marine Le Pen. Pierre-Emmanuel Barré, ici, à France Inter, qui s'est dit censuré pour une chronique qu'il voulait faire sur l'abstention. Une censure réfutée par Nagui, qui lui a proposé de revenir quand il voulait. Mais alors, quelles limites pour les prises de position personnelles pendant les campagnes électorales? Quel droit d'expression des journalistes sur les réseaux sociaux? Quelles règles? La neutralité s'impose-t-elle, quelles que soient les circonstances politiques? Vous le verrez, dans cet article, les réponses sont variables selon les organes de presse. Reste que ces questions, qui sont souvent exploitées politiquement par certains candidats, nous sont aussi très souvent posées par nos lecteurs et par nos auditeurs.